Gloire à Dieu.
On va aller à la portion des Saintes Écritures. On a commencé la semaine passée une étude sur le Saint-Esprit. On a vu certains points pour nous faire comme une petite introduction sur le Saint-Esprit. On continue, on va en avoir pour une couple de semaines à parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet, pour moi en tout cas, ça m'excite. Je trouve ça excitant de parler du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est bien plus proche de nous qu'on le pense. Parce que quand tu es né de nouveau, tu l'as reçu. Il est en toi, il est toujours là. Mais c'est qui ça, le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Mais c'est tous les sujets qu'on va voir. Ce soir, en parlant de qui est le Saint-Esprit, la première question qu'on va répondre, c'est ce que le Saint-Esprit n'est pas. Parce que, pour t'aider à comprendre une chose, des fois en voyant l'opposé ou ce qui n'est pas, là, ça va t'aider à comprendre plus profondément. Le Saint-Esprit n'est pas un mythe ou une légende dont on entend parler, mais qui a rien de plus. Ça, c'est comme les dieux de ce monde. Il y a des religions sur la terre, là. Il y a peut-être 3000, 4000 religions sur la terre. Ah, ben, avec toutes sortes de faux dieux qui se sont inventés, puis ils répondent même pas, ils agissent pas, ils voient rien, ils parlent pas, ils interviennent pas dans la vie de personne, ces faux dieux-là. Puis le monde, c'est comme s'il a entendu parler qu'il y a un dieu, mais il voit jamais, il agit pas. Tu regardes dans le psaume 115, ça nous parle dans ça au niveau du verset 4, ça nous dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, et elles ne produisent aucun son dans leur gosier. » Ça, ça parle des idoles.
Il y a un autre psaume qui dit exactement la même chose.
C'est comme Bouddha.
Bouddha, ça en est un. Tous les dieux de Krishna, Hare Krishna, puis toutes les compagnies, là, les dieux hindous, de l'hindou. Ouais. En tout cas, les religions sur la terre, là, il y en pleut. La mythologie romaine, la mythologie grecque, ils appellent ça des mythologies parce que c'est des mythes. Un mythe, c'est pas une réalité. Un mythe, c'est une mythologie, c'est un conte, c'est une histoire, c'est un récit, c'est des choses inventées. Puis les gens finissent par y mettre le foi là-dedans, puis ils croient à cela.
Comme le silence des agneaux ou Harry Potter, ils ont pas la même.
Ben ça, Harry Potter, c'est un film, c'est même pas une croyance, mais là, c'est sûr que la sorcellerie est une croyance. Mais la sorcellerie, ça, c'est des sciences occultes. Ça, c'est ils font affaire avec les démons, des anges déchus. Puis là, ça peut arriver que les anges déchus interviennent. Mais c'est des démons, c'est pas le vrai Dieu. Mais le Saint-Esprit, il est pas un mythe ni une légende. C'est pas quelque chose qu'on n'entend jamais parler comme les dieux de ce monde. Le Saint-Esprit, il parle, il voit, il entend, il écoute, il marche, il agit, puis il intervient dans cette vie sans arrêt. S'il serait pas là en train de travailler, la terre arrêterait d'être là. C'est lui, le Saint-Esprit, qui maintient toute chose en existence. Parce que, on va le voir plus loin, le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu. Fait que si le Saint-Esprit se retire de sa création, oubliez ça, il n'y a plus de création. Dieu y agit, puis on va avoir des preuves de ça plus tard dans la suite de l'histoire. Mais le Saint-Esprit, la première chose qu'il n'est pas, il n'est pas un mythe ou une légende. Il y a plein de monde qui ont expérimenté des choses avec le Saint-Esprit, qui vivent avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est un être vivant. C'est pas comme tu prends un morceau de bois, puis tu sculptes un objet, puis là, tu dis, là, c'est rendu mon Dieu. Puis là, il se met à genoux devant ça, puis il offre des présents à ce Dieu-là, qui est un morceau de bois, un crucifix, une statue de la Sainte Vierge, ou un plâtre, un objet en plâtre. C'est des choses qui ne parlent pas, qui agit pas, qui voient rien. Le Saint-Esprit, pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un être vivant, puissant, excessivement puissant. C'est plus que ça, c'est tout puissant. Il n'y a rien que le Saint-Esprit n'est pas capable de faire. Il est Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu peut tout. Sauf une chose. De pratiquer le péché, Dieu n'est pas capable. Puis il n'est pas capable d'aller contraire à ce qu'il a annoncé non plus dans sa parole. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir fidèlement comme qu'il l'a annoncé. Mais le Saint-Esprit, c'est un être vivant, puissant, puis il communique de sa présence. C'est pas un être qui veut être distinct de la planète, puis dire « arrangez-vous ». Il est excessivement présent, puis il veut se manifester. Dans Hébreux 6, le verset 4, ça nous dit « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont pris part au Saint-Esprit ». Ça, je lis pas tout le texte, mais c'est juste pour nous dire qu'il y en a qui ont pris part au Saint-Esprit, qui ont goûté au don céleste. C'est que le Saint-Esprit, c'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est quelque chose qui peut s'expérimenter. C'est quelque chose que tu peux goûter, que tu peux sentir, que tu peux voir, parce que tu vas le voir à l'œuvre, puis que tu peux goûter, pas dans le sens goûter, mais tu peux vivre de son action dans ta vie. Il peut changer ta vie, il peut te transformer, il peut t'animer, il peut te parler, il peut te révéler des choses, il peut te montrer des choses, il peut te conduire. C'est un être tout puissant. C'est pas un mythe, c'est pas une légende. Si on se limite, puis on n'ose pas croire, on verra pas sa main à l'œuvre. Mais le Saint-Esprit veut agir, il veut répondre aux prières, il veut intervenir, mais on prie pas le Saint-Esprit, on prie Dieu le Père dans le nom de Jésus, puis c'est le Saint-Esprit qui agit, on va le voir ensuite. Mais le Saint-Esprit, il est pas juste une force, il est pas juste une puissance. Parce qu'il y a des, comme l'exemple des témoins de Jéhovah, ils croient pas que le Saint-Esprit est un être qui pense, qui voit, qui agit. Il pense que c'est juste la force de Dieu. Mais c'est faux. Le Saint-Esprit n'est pas juste de l'énergie. Il n'est pas juste comme de l'électricité. Il n'est pas juste une force. Le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 12, 11, ça nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Le Saint-Esprit a une volonté. C'est un être vivant qui communique les dons spirituels comme il le veut. C'est pas juste une force, comme les témoins de Jéhovah enseignent. C'est un mensonge. C'est une preuve qu'ils n'ont pas goûté, ou ben ils se laissent pas, ils s'ouvrent pas à qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. Ils sont comme bloqués à une fausseté. Le Saint-Esprit est plus qu'une force. C'est un être vivant. C'est un être tout puissant qui vient à l'intérieur du croyant lorsqu'il se convertit. Puis il agit dans la vie du croyant comme il le veut. C'est, il pense, il agit, il parle, puis il bouge. Il est pas comme une statue. Une autre chose que le Saint-Esprit n'est pas, c'est que c'est pas un être inaccessible. Comme un être qu'on entend parler, mais jamais personne ne l'a vu. C'est comme les extraterrestres, là. Tout le monde a entendu parler, mais jamais personne qui n'ont réellement vu. T'es pas capable de le prouver que ça existe. Tandis que le Saint-Esprit, c'est pas un être inaccessible, c'est un être accessible. Tu peux le recevoir, tu peux le vivre, tu peux l'expérimenter, tu peux y goûter au don céleste, tu peux prendre part à ce qu'il veut t'offrir. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu de ce que le Saint-Esprit va faire, peut faire ou veut faire, on va l'en voir plein dans l'étude, on peut expérimenter ces choses-là, puis c'est pour nous, c'est une promesse. Car la promesse du Saint-Esprit est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est une expérimentation. Dieu n'a pas parlé du Saint-Esprit dans sa parole en disant « Pensez-y, mais ça arrivera jamais ». Non, c'est un être accessible. Il veut agir dans notre vie. Il veut se révéler. C'est lui qui va nous rappeler même les choses que Jésus a enseignées, puis il veut nous ramener à marcher d'une manière qui soit agréable, pleine de fruits pour le Père. Fait qu'il faut apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit. Dans Actes 2, 38, c'est ce que j'ai mentionné en quelques mots. Pierre leur dit, lorsque les gens ont été touchés par la parole de Dieu, lorsqu'il est en train de prêcher à la Pentecôte, il dit « Repentez-vous pour que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est un cadeau, le Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu veut donner. C'est pas un être inaccessible. Parce que la promesse de recevoir le Saint-Esprit là est pour vous, pour vos enfants, puis en tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est un être accessible encore 2000 ans plus tard. Il y a encore des gens qui vivent puis qui expérimentent l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Mais il y a des conditions pour y arriver. C'est pas quelque chose que... Tu peux faire n'importe quoi, n'importe comment, puis tu penses que tu es avec. C'est quelque chose qui se reçoit à un moment donné dans ta vie. C'est pas quelque chose que tu avais à la naissance. C'est une expérience que tu vas vivre. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Puis on va en voir dans la suite de l'étude. On va expliquer la nouvelle naissance, comment que ça arrive. Puis c'est un moment donné bien précis dans la vie d'une personne qu'elle réalise qu'elle est pécheur, elle réalise que ce que Jésus a fait, puis que la personne décide de changer de vie, elle veut se repentir. Elle y croit à ce que Jésus a fait, puis elle veut se repentir pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Puis à partir de ce moment-là qu'elle fait la prière pour se repentir, c'est là que le pardon des péchés se fait, et ensuite tu reçois le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit dans ce verset-là. Ça nous dit à tous ceux qui étaient touchés suite à la parole et dit « Qu'est-ce qu'on va faire? » Pierre leur dit « Repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Il faut passer par repentance, pardon. Après ça, tu peux recevoir l'Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit tout de suite à la naissance. C'est quelque chose que tu reçois à partir d'un moment précis dans ta vie où ce que tu vas faire le point face à ce que Jésus a fait là 2000 ans, puis tu vas te dire « Je suis pécheur, puis je crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. » Puis là, tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu, puis tu vas t'engager à suivre Jésus. Il dit là, pour le premier pas d'obéissance, c'est que tu vas te faire baptiser. Le baptême, c'est un des premiers pas de ton obéissance. Tu dis que tu veux suivre Jésus, tu vas te faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Ton baptême te sauve pas, c'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi qui commence à faire des pas. C'est là que tu démontres que tu as la foi. Juste savoir intellectuellement que Jésus sauve, c'est pas suffisant. Parce que le démon aussi sait que Jésus sauve. Les démons, le diable, le savent que Jésus sauve, mais ils seront pas sauvés. C'est pas juste de le savoir intellectuellement. Il faut le savoir intellectuellement, ça commence là. Faut que ça te passe au cœur pour vouloir t'engager à le suivre, à devenir un disciple. Tu veux renoncer à toi-même, tu veux prendre ta croix, tu veux le suivre. À partir du moment que tu décides de te repentir, tu demandes pardon, là il va te pardonner. Faut que tu passes par le pardon avant que le Dieu Saint entre dans ta vie. Sans ce lavage-là, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Il faut que tu passes par Jésus, le pardon, le Saint-Esprit. Là, c'est un cadeau qu'il te donne. Là, tu as une nouvelle vie qui commence. Puis tu peux commencer à expérimenter tout ce qui est annoncé dans la parole. De toutes les façons, de goûter sa présence, de sentir sa paix, d'écouter sa voix qui te parle, de recevoir ses révélations, ses enseignements. Ta vie, elle change, tu commences à être transformé. Tu veux pas dire que tu vas être parfait du jour au lendemain, mais ta vie commence à changer. Tu es transformé de gloire en gloire. Moi, le Daniel Poulain original est pas comme qu'il est là. L'original, il était dans le péché par-dessus la tête. Aujourd'hui, c'est un Daniel Poulain transformé, puis il est pas encore parfait, il en fait encore des erreurs, des gaffes et des péchés. Mais il vise la perfection. Mais c'est la même chose pour tout chrétien sur la terre. Tous les chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie. Ils vivent des choses que le Saint-Esprit veut leur communiquer, puis leur vie change. Puis si notre vie ne change pas, ou on n'entend jamais l'Esprit nous parler, c'est un signe qu'il n'est pas rentré encore. Il n'est pas trop tard.
Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'il nous suggère, il nous souffle des choses pour qu'on puisse...
Pour ceux qui l'ont reçu, oui.
On ne sait pas comment pas demander dans nos prières.
Oui, pour ceux qui l'ont reçu, oui, il va agir. Mais ceux qui ne l'ont pas encore reçu, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore passé par la porte étroite. C'est ça. Il faut passer par Jésus premièrement, qui est la porte. Puis là, tu le confesses, puis tu demandes pardon, puis là, tu demandes de venir te donner le Saint-Esprit. Exactement. Puis comme Jésus a dit à ses disciples quand il était à la suite à la Pentecôte, avant Pentecôte, il a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à temps que soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ils ont entendu, puis se sont mis à prier. Qu'est-ce qui s'est produit? Le Saint-Esprit a descendu, ils ont goûté la puissance de Dieu, il s'est passé des signes, des prodiges, des miracles, puis la suite de l'histoire des Actes des Apôtres, tu vois encore des signes, des prodiges, des miracles produits par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un être inaccessible. C'est que Dieu veut offrir cette promesse-là à tout le monde. Pour nous, pour nos enfants, il y a un aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est un appel que Dieu fait. Dieu frappe à la porte des cœurs puis il dit, viens à moi. Puis là, la personne, quand elle dit, oui, Seigneur, je me donne à toi, à partir de ce moment-là, ta vie commence à changer. C'est l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Il faut apprendre à écouter la voix de l'Esprit. C'est pas quelque chose d'automatique. Même quand tu l'as reçu, faut que tu apprennes à écouter. Puis s'il te dit des choses, faut que tu obéisses. Faut que tu apprennes à te laisser conduire par le Saint-Esprit. J'ai le temps de commencer la suite. Qui recevons-nous en recevant le Saint-Esprit?
Jésus.
Parce que dans le premier point qu'on va regarder, qui était en Jésus? Bonne question. Dans Jean 14, 10, Jésus est en train de parler à ses disciples et dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Jésus n'a rien inventé. » Il dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, puis le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Dans ce verset-là, ça nous parle clairement que Jésus manifestait des œuvres surnaturelles. Il parlait de choses, de révélations cachées. Il connaissait le cœur des gens. Il donnait des paroles pour révéler les choses du cœur des gens. Il prêchait des choses. Ça répondait aux besoins des gens selon les situations. Il a manifesté des guérisons, des délivrances de démons. Il a ressuscité des personnes mortes. Il a manifesté sa puissance de toutes les façons. Il a fait des multiplications de pain, il a nourri du monde avec tout ça, il a fait des pêches miraculeuses, il a marché sur l'eau, toutes sortes de manifestations surnaturelles. Il a été transfiguré. Mais il dit là, toutes ces œuvres-là, là, croyez à cause de ces œuvres-là. Il dit ça, là, c'est une preuve que le Père, Dieu le Père, Yahvé, le grand Yahvé de l'Ancien Testament, le Je suis, celui qui existe de toute éternité, le Créateur de toute chose, le Père, Dieu le Père, est en Jésus-Christ, était en Jésus-Christ. C'est lui le Père qui enseignait Jésus pour tout ce que Jésus avait à dire ou à faire. C'est le Père, le grand Yahvé, qui faisait les choses à travers Jésus. C'est extraordinaire.
Hein?
Exactement, c'est ce qu'on vient de le voir. Puis, dans Luc, chapitre 4, le verset 1, Jésus, suite à son baptême, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, puis il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Qui était en Jésus?
Son Père, puis le Saint-Esprit.
Alléluia! Le Père est en Jésus et le Saint-Esprit était en Jésus. Depuis le début, Jésus n'était même pas né qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il était dans le ventre de sa mère, puis il était né de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a touché Marie, Oui, il y a certains hommes de Dieu qui sont nés de même, mais ça, c'est des cas spéciaux. Mais Jésus, il est né de l'Esprit, il a été touché, Marie a été touchée par le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit, il est en Jésus depuis le début. Puis que tu vois dans tout de suite à son baptême l'Esprit pour démontrer à Jean-Baptiste que c'était lui qui baptisait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendu comme une colombe, mais il était déjà là. C'est juste pour une démonstration surnaturelle comme une colombe. Puis le Jean-Baptiste avait été avisé, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Fait que là, c'est arrivé. Puis là, Jésus est allé rempli du Saint-Esprit, est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Puis quand il est sorti du désert, ça dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus, le Saint-Esprit, il est en Jésus depuis le début. Puis il était là au baptême pour se manifester puissamment avec la colombe.
Puis,
il était revêtu de la puissance de l'Esprit quand il est revenu dans Luc, tu vois ça, il est revenu du désert après avoir été tenté par le diable. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en Jésus, puis le Père est en Jésus. C'est ça qui est le point que je veux en venir. Ils sont trois dans un. Mais là, tu vois encore Jésus qui est en forme humaine, puis le Saint-Esprit, puis Dieu le Père est à l'intérieur. Mais Jésus, dans d'autres versets, il dit que lui, Jésus, il existait auprès du Père, puis il est issu du Père. Fait que Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit, les trois étaient là pour former un seul Dieu. C'est un être éternel, les trois qui forment Dieu. Savez-vous que elle... Dans l'hébreu, E-L, ça veut dire éternel. C'est ça fait partie du nom de Dieu. Quand tu vois un nom comme Michael, ça veut dire, Mika veut dire semblable, elle, à l'éternel. Ça veut dire semblable à l'éternel. Daniel, ça veut dire Dan qui juge, elle, c'est l'éternel. Ça veut dire qui juge pour Dieu, qui juge pour l'éternel.
El Shaddai.
El Shaddai, c'est El, E-L, qui désigne le nom, un titre de Dieu, pour parler que c'est Dieu.
El
Shaddai, El Olam. El, mais dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs endroits, c'est marqué Elohim, pour parler de Dieu. Puis Elohim, c'est El, mais au pluriel. Ça veut dire que Dieu est au pluriel. Il n'est pas comme un seul. Il est un seul Dieu, mais en étant plusieurs à l'intérieur de un seul Dieu. C'est le El au pluriel. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu de toute éternité qui sont là, qui existaient puis qui vont toujours exister.